Bonjour, aujourd'hui, la Grande Loge Féminine de France. Au micro, Béatrice Klein. Mes deux invités pour parler de la Grande Loge Féminine et l'Europe, Françoise Carrère et Marie-Claude Ripert. Donc, rebonjour à tous et à toutes. Nous allons commencer, pour entrer dans notre sujet, par nous rappeler un événement qui est arrivé très récemment, qui était les rencontres de la Grande Loge Féminine de France le 8 mars. Françoise, en quelques mots, que s'est-il passé ce 8 mars, quand nous avons choisi de réunir des personnalités du monde politique et associatif pour parler du féminisme européen? Tout d'abord, peut-être, pourquoi ces rencontres de la Grande Loge Féminine de France?
Alors, ces événements sont proposés régulièrement sous la forme de colloques ou conférences et surtout, ils seront l'occasion pour la Grande Loge Féminine de France de réunir des expertes sur des sujets de société qui lui sont chers et surtout de faire entendre sa voix.
On s'en doute un petit peu, mais dites-nous quand même pourquoi ces premières rencontres ont eu lieu le 8 mars.
La Grande Loge Féminine de France se devait bien évidemment de participer activement à la Journée internationale des droits des femmes, parce que cette dynamique est indissociable de l'histoire de la Grande Loge Féminine de France, de son idéal et de ses valeurs, donc bien sûr de son ADN. Ainsi que cela figure dans sa déclaration de principe, je la cite, « La Grande Loge Féminine de France œuvre à l'accomplissement et au respect des droits des femmes, condition indispensable de l'universalisme des droits humains. »
Alors, pourquoi les femmes à la Grande Loge Féminine de France? On le comprend aisément. Donc j'ai envie de vous demander, pourquoi l'Europe?
Alors évidemment, à la veille d'élections qui engagent notre avenir de citoyenne d'Europe, la Grande Loge Féminine de France a souhaité porter un éclairage sur la place des femmes en Europe. Pas simplement aujourd'hui, mais aussi demain. Car bien évidemment, au-delà de certains acquis, il existe encore bien des disparités, toujours des menaces, déjà des régressions, mais aussi quand même des propositions. Ces rencontres s'inscrivent dans le rayonnement international de la Grande Loge Féminine de France et notamment européen. Quels acquis et où en sommes-nous aujourd'hui en termes de droits des femmes en Europe? Quels enjeux et quels défis? Et surtout, comment construire enfin cette Europe que les Européennes appellent de leurs vœux, une Europe où les droits seraient les mêmes pour toutes?
Alors, qui avez-vous réuni pour aborder cette question et pour animer ces rencontres qui avaient pour thème « Citoyennes d'Europe, ensemble, construisons notre avenir ».
Alors, nous avions invité Martine Roure, ancienne vice-présidente du Parlement européen, Véronique Seyer, coprésidente du planning familial, Violaine Lucas, coordinatrice du site Yes Women EU, Laurence Rossignol, sénatrice, ancienne ministre. Et le débat a été animé par Françoise Laborde, journaliste.
À n'en pas douter, les participantes ont dû être enthousiasmées par tous ces propos. Et vous avez aussi, je crois, à l'issue de cette rencontre, remis le traditionnel maintenant prix des droits des femmes, donc pour son édition 2019. Pouvez-vous nous dévoiler qui a été la lauréate?
Alors la lauréate a été Geneviève Fraisse, que tout le monde connaît, qui a passé son temps d'écriture, son temps de réflexion et son temps d'action dans la défense des femmes et l'Europe.
Alors, nous allons maintenant revenir à l'Europe plus précisément. Et Marie-Claude, on peut se demander pourquoi est-ce que l'Europe serait un sujet si pertinent lorsqu'on souhaite parler des femmes?
Eh bien, l'Europe ne fait plus rêver. On constate un désintérêt des citoyennes et des citoyens pour l'Union européenne. En effet, le taux de participation aux élections du Parlement européen n'a cessé de décroître. On constate également que les femmes votent moins que les hommes. Et pourtant, les femmes représentent plus de la moitié de la population de l'Union européenne. Donc on peut se demander pourquoi les femmes, encore plus que les hommes, ne se sentent pas partie prenante dans la construction européenne.
Y a-t-il déjà des causes que vous souhaitez évoquer?
Oui, tout d'abord, même si des améliorations ont été apportées, l'UE apparaît aux citoyennes et aux citoyens comme une entité présentant un très fort déficit démocratique dans ses institutions. Nous constatons le manque de modèles féminins dans ces structures où la culture politique reste essentiellement masculine, structure élaborée sans les femmes. Et même au Parlement européen, organe le plus démocratique des institutions de l'UE, le niveau de représentation des femmes a stagné depuis 1999 à 37%, avec de fortes disparités selon les États. En outre, la mise en œuvre du gender mainstreaming, c'est-à-dire l'intégration de la dimension de genre, un concept politique et novateur qui aurait pu avoir des effets très bénéfiques, a brouillé la lisibilité et l'efficacité de la politique en direction des femmes, qui ont été noyées dans des dispositifs complexes dans lesquels elles ne se reconnaissent absolument pas.
Des problèmes d'argent, comme toujours.
Oui, de même, de fortes réductions budgétaires ont été décidées suite à l'élargissement de l'UE en 2004, puis en 2008, lors de la crise financière, ce qui a eu un très fort impact négatif sur les politiques concernant les femmes. Enfin, il existe en Europe des positions très conservatrices concernant les droits des femmes et en particulier les droits sexuels et génésiques.
Alors évidemment, ce constat est parfois un peu attristant et pourtant, l'Union européenne a fait pour les femmes.
Oui, en effet, l'égalité entre les femmes et les hommes étant une des valeurs de l'UE, cette dernière mène depuis plus de 50 ans des politiques en ce sens, sous forme de directives, recommandations, résolutions, décisions du Conseil, programmes d'action, etc. Par exemple, un travail important a été fait pour que la charge parentale entre les deux parents soit mieux répartie. En outre, en mai 2017, l'UE a signé la Convention d'Istanbul, dont l'objectif est la lutte contre les violences faites aux femmes. Il arrive aussi que la pratique des États les plus progressistes, comme les pays scandinaves, influence et même soit reprise par l'UE.
Et alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que nous travaillons toujours avec les mêmes enjeux ou est-ce qu'il y a des enjeux nouveaux finalement?
Et aujourd'hui, de nouveaux enjeux guettent l'Europe et les enjeux des prochaines élections pour le Parlement européen sont très importants. La montée des courants et partis dits populistes dans la plupart des pays membres fait craindre que les droits des femmes soient une cible prioritaire. Car souvent, sous couvert de protection des femmes, ils sont d'accord pour que l'on revienne au rôle traditionnel imparti aux femmes et aux hommes, d'accord toujours contre ce qu'ils appellent l'idéologie de genre, d'accord encore contre l'IVG. Et les hommes sont plus nombreux que les femmes à être séduits par ce modèle de société. Donc pour lutter contre les régressions à craindre, aujourd'hui, nous devons œuvrer pour que l'UE devienne une démocratie paritaire, qui rendra visible l'égale dignité des femmes et des hommes et qui haussera l'UE au niveau de ses valeurs. Rien dans les traités fondant l'UE ne l'interdit. Pour que l'Europe redevienne un projet désirable, elle doit travailler à réduire son déficit démocratique et établir la parité femmes-hommes à tous les niveaux.
Alors nous sommes là aujourd'hui aussi pour parler de la Grande Loge féminine de France, qui, rappelons-le, est avant tout un ordre initiatique, mais qui a voix de cité. Quelle est l'implication de cette Grande Loge féminine de France dans l'Europe et dans la construction européenne, Françoise?
Alors, il est à noter que la Grande Loge féminine de France s'est dotée d'un outil remarquable qui s'appelle l'IME, Institut maçonnique européen. Il a fêté ses 10 ans. Il représente la Grande Loge féminine de France auprès des instances européennes. L'Institut maçonnique européen entend porter au niveau européen les valeurs de la Grande Loge féminine de France. Il a pour ambition de faire partager aux Européennes et aux Européens les principes républicains qui favorisent le dialogue, qui transcendent les pratiques culturelles et font ainsi société. Il vise surtout à défendre la laïcité auprès des instances européennes, ainsi qu'à défendre et promouvoir les droits des femmes, notamment en promouvant la clause de l'européenne la plus favorisée, chère, très chère à Gisèle Halimi, admise théoriquement par la plupart des États membres. L'IME travaille régulièrement tous les ans avec un sujet précis et cette année, le thème choisi en 2019 est « Femmes et politique ».
Alors, Marie-Claude, est-ce qu'il y a d'autres leviers sur ce sujet-là que vous souhaiteriez nous présenter ?
Oui, l'intérêt de la GLFF pour l'Europe est très ancien. Très tôt, la GLFF travailla à fonder des loges dans divers pays européens, loges qui devinrent des obédiences indépendantes, et dès 1982 fut fondé le CLIMAF, Comité de liaison internationale de la maçonnerie féminine, association qui regroupe des obédiences féminines adogmatiques et des loges indépendantes. Le CLIMAF est composé aujourd'hui de 8 obédiences à raison de une par pays, regroupant environ 20 000 femmes. Et dans le préambule de ses statuts, le CLIMAF s'engage à promouvoir les valeurs de la maçonnerie universelle en général, de la maçonnerie féminine en particulier, et celles de la démocratie, c'est-à-dire les valeurs humanistes qui sont celles de l'UE. Et pour réaliser ce projet, le CLIMAF décline ses actions dans deux domaines, en interne et en direction du grand public. En direction du grand public, le CLIMAF organise dans les différentes capitales européennes des manifestations, des rencontres et des colloques en prise avec les interrogations de notre société. Par exemple, « Femmes et francs-maçons en Europe », Communauté de destin et de responsabilité, ou bien femmes et migration, et encore femmes et pauvreté, et le dernier en date, identité et altérité, en janvier 2019 à Berlin. Parce que, conscientes d'appartenir à un même projet européen, les femmes membres du CLIMAF veulent agir en cette nouvelle phase de la construction européenne afin que l'Europe ne se fasse pas sans elle, mais avec elle.
Il me semble que la Grande Loge féminine de France a plusieurs fois proposé des plateformes pour des élections présidentielles et également européennes. Est-ce que ce sera le cas aussi cette année, à quelques jours ou quelques semaines, des élections européennes ?
Oui, bien sûr, on ne va pas déroger à la tradition. Et vous le rappeliez fort bien qu'il y avait des plateformes pour les présidentielles et les européennes. Et il est évident que cette démarche est en cours pour les européennes 2019.
Alors, pour revenir à la Grande Loge féminine de France, est-ce que vous diriez, Marie-Claude, que la défense des droits des femmes a toujours été dans l'ADN de cette obédience, dont je rappelle qu'elle a un peu plus de 70 ans.
Et pour répondre à votre question, je vais faire un petit détour historique, si vous permettez. Si la GLFF a pu se fonder et prospérer comme elle l'a fait depuis 70 ans, cela n'aurait jamais pu se faire sans les droits des femmes. Liberté de circuler, de se réunir, de s'associer, de passer des contrats, de déposer des statuts, d'acquérir par soi-même des biens, etc. L'histoire montre que le socle de toute institution féminine est la reconnaissance des droits des femmes, sans lesquels une franc-maçonnerie féminine autonome ne pourrait exister. À preuve, la difficulté, voire l'impossibilité de l'émergence d'une franc-maçonnerie féminine indépendante dans les pays où les droits des femmes sont combattus. L'affirmation des droits des femmes est donc le principe premier, la cause, je dirais la source de l'existence d'une franc-maçonnerie féminine indépendante et souveraine. D'ailleurs, dès le début de son existence, notre obédience a été à la fois un creuset initiatique et une sorte de laboratoire pour les droits des femmes, ainsi qu'en témoignent les travaux faits dans les loges depuis le début du XXe siècle. Au départ, toute l'obédience était mobilisée sur ce sujet.
Si je peux rajouter un mot, on va dire que donc c'est vraiment, en tout cas dans l'ADN de la Grande Loge féminine de France, depuis toujours, depuis qu'elle existe, d'être vraiment à la fois un ordre initiatique et à la fois un lieu d'échange et de discussion vers la cité.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, cela a été rappelé, la Grande Loge féminine de France a inscrit dans l'article 3 de sa déclaration de principe, elle œuvre à l'accomplissement et au respect des droits des femmes, condition indispensable à l'universalité des droits humains, inscrivant ainsi dans le marbre ce qui jusqu'alors était, pourrions-nous dire, dans ses gènes. Cette prise de position nous est apparue comme nécessaire, car de même que le suffrage dit universel a longtemps été un suffrage uniquement masculin, la notion d'universalité est longtemps restée calquée sur le masculin. Maria de Rheims ne dénonçait-elle pas déjà, à son époque, un universel de poche qui excluait la moitié de l'humanité? Ainsi, dans l'histoire, dans la société, dans la culture maçonnique même, le féminin a bien souvent été occulté et continue de l'être. Or, ne pas nommer, c'est rendre invisible et voué à l'inexistence. Affirmer dans notre déclaration de principe notre engagement pour les droits des femmes, ce n'est pas renoncer à l'universel en niant la moitié masculine de l'humanité. C'est au contraire affirmer notre prise en compte de l'universel dans son intégralité.
Alors pour un petit peu le mot de la fin, je vais vous inviter à nous dire si vous avez une actualité, proche ou à moyen terme, que vous souhaitez partager avec nos auditeurs et nos auditrices.
Oui, si vous le voulez, nous organisons le 30 novembre 2019, dans le cadre de la journée contre les violences faites aux femmes, un colloque intitulé « Les violences masculines, le coût des coups ». Le coût, C-O-U accent circonflexe T, des coups, C-O-U-P-S. En effet, les violences masculines sont repérables dans la plupart des domaines de la vie sociale et leur coût est considérable tant sur le plan financier que psychologique. Par exemple, le coût des violences masculines contre les femmes représente plus de 3 milliards d'euros par an, sans parler du coût psychologique. Sans prétendre à l'exhaustivité, nous nous attacherons dans un premier temps à faire un bilan de ces coûts dans des domaines représentatifs, puis nous tenterons de comprendre les causes de cet état de fait. Enfin, croyant fermement, à l'instar de l'anthropologue Françoise Héritier, que la violence n'est pas innée chez l'homme, qu'elle s'acquiert par l'éducation et la pratique sociale, nous essaierons de proposer des remèdes pour lutter contre ce fléau. Ce colloque sera ouvert à toutes et à tous. Il sera annoncé sur le site de la Grande Loge Féminine de France et nous espérons qu'il attirera un large public.
Et bien voilà une belle conclusion. Rendez-vous donc sur le site de la Grande Loge Féminine de France, glff.org. Merci à notre réalisatrice, Dany Journeau, à Philippe Mercher, à la technique. Et nous nous retrouverons dans la chaleur de l'été, enfin nous l'espérons, le 7 juillet.